Gaston Leroux, l'épouse du soleil et l'arrivée d'un prétendant. Sur sa prière, le batelier lui avait désigné approximativement l'endroit de la ville où s'est trouvée la Calle de Lima, la rue de Lima, et le regard du jeune homme ne s'en était plus détourné. Quand il débarqua, après avoir jeté quelques centavos à son homme, il repoussa brutalement l'assaut des guides, interprètes, pisteurs d'hôtels et parasites pour courir dans la direction indiquée. Il arriva bientôt à la Calle de Lima, qui semblait être la délimitation entre la vieille et la nouvelle. Au-dessus, à l'est, le haut commerce s'était groupé avec ses vastes immeubles, ses rues larges et droites, ses boutiques françaises, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, qui se succèdent sans interruption. Au-dessous, tout l'enchevêtrement des ruelles étroites et vivement coloriées. Les colonnades, les vérandas s'avançant les unes vers les autres, prenant presque tout l'espace disponible. Raymond avait pénétré dans ce labyrinthe, bousculé par des Chinois, porteurs agiles de lourds fardeaux, et par des Indiens paresseux. Quelques ranchos, quelques cabarets à matelots ouvraient leurs portes sur l'ombre fraîche de ce quartier que le jeune homme, qui n'était jamais venu au Callao, paraissait parfaitement connaître. À peine hésita-t-il à un carrefour un peu compliqué. Soudain, il s'arrêta tout net et s'appuya un peu pâle à la muraille décrépite d'une vieille masure dont la véranda entr'ouverte laissait venir jusqu'à lui une voix féminine, jeune, très musicale, mais aussi très assurée, qui déclarait en espagnol à un interlocuteur invisible « Eh, mon cher monsieur, c'est comme vous voudrez, mais à ce prix-là, vous ne pouvez avoir que du guano phosphaté qui n'aura plus que 4% d'azote et encore. » La discussion à l'intérieur de la bâtisse se prolongea quelques minutes encore, et puis il y eut un échange de politesse, on entendit une porte qui se refermait, et Raymond, de plus en plus ému, fit quelques pas du côté de la véranda et avança la tête. Alors il put voir une jeune femme d'une beauté singulière mais un peu sévère. Du moins l'occupation qui, dans l'instant, retenait toute son attention, et qui consistait à compulser de gros livres de caisse et à prendre rapidement des chiffres sur un mignon carnet attaché à la plus jolie taille du monde par une chaîne d'or, cette occupation, disons-nous, devait être pour quelque chose dans le froncement des sourcils, dans l'accentuation de la ligne du front et dans la dureté momentanée du profil. Rien dans cette femme n'apparaissait de la langueur créole, rien non plus de la beauté espagnole en dehors de ses admirables cheveux noirs. Mais c'était là le casque de Carmen sur la tête de Minerve aux yeux bleus, déesse de la sagesse et excellente comptable. Enfin, elle leva la tête. « Marie-Thérèse ! Raymond !» Elle laissa glisser à ses pieds avec fracas un gros registre vert et courut à la fenêtre. Déjà Raymond couvrait de baisers ses mains prisonnières. Et elle riait du bonheur de le voir, si grand, si beau, si fort, avec sa belle barbe blonde qui le faisait ressembler à un mage doré d'Assyrie. « Ça va, le guano ? Pas mal, et vous ? Mais on ne vous attendait que demain matin. » « Bah oui, nous avons brûlé une étape. »« Comment va ma petite Jeanne ?»« Oh, ma sœur est une grande personne maintenant. Elle en est à ce second bébé. »« Et Paris ?»« Eh bien, la dernière fois que nous l'avons vue, il pleuvait. »« Et le Sacré-Cœur ?»« Mais nous n'y sommes plus retournés, vous pensez bien, depuis vous. »« Est-ce qu'il paraît qu'on va le vendre ?» Hélas, que ne suis-je assez riche pour le racheter, si seulement on me permettait d'emporter le parloir, le petit coin où nous nous asseyions en vous attendant, Jeanne et moi. Mais j'y pense. Et votre oncle, qu'en avez-vous fait? Toujours à bord, il ne veut pas quitter sa collection. Continue à prendre des notes avec le zèle d'un académicien qui découvre l'Amérique. Mais où est la porte, mon Dieu? Où est la porte? Je n'ose pas entrer dans vos bureaux par la fenêtre. Et puis je vous dérange dans vos comptes. Énormément. Tournez le coin de la rue, la première porte à droite, et frappez avant d'entrer. Il s'élança, trouva une voûte à sa droite qui ouvrait sur une immense cour où s'agitait dans une certaine effervescence tout un peuple de coolies chinois et d'indiens quichuas. Des camions venant du port passaient sous la voûte avec un grand bruit de ferraille. D'autres chars descendaient à vide. Il y avait un grand tumulte de choses et de gens dans une poussière suffocante. Enthousiasmé, l'ingénieur murmura: C'est elle qui commande à tout cela. Et il la trouva sur le seuil de son bureau qui l'attendait avec son heureux sourire. Ce fut elle qui referma la porte. Elle tendit son front. Embrassez-moi. Il l'embrassa en tremblant dans les cheveux. C'était la première fois. Elle était beaucoup moins troublée que lui. Et comme il restait là, debout, les bras ballants, à la regarder avec extase, comme un grand dadais, ne pouvant plus prononcer un mot, ce fut elle encore qui dit: On s'aime? Oh, fit l'autre en joignant ses mains de boxeur. Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Il est trop tard, s'exclama le pauvre Raymond dans une clameur désespérée. Non, rassurez-vous, je viens de remercier mon quatrième prétendant, Don Alonso de Cuellar, le plus noble parti de Lima, mon cher Raymond. Mon père est furieux. À propos de mon père, vous ne me demandez pas de ses nouvelles? Oh, je vous demande pardon. Oui, des nouvelles de votre papa et des petits. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis là, vous regardez, je suis stupide. Ben, il se porte très bien, mon bon papa chéri. Il se réjouit de votre arrivée et de celle de votre oncle surtout. Car vous, mon pauvre Raymond, vous ne venez que par-dessus le marché. Oui, il est heureux de donner l'hospitalité à un membre de l'Institut. Depuis un mois, il ne parle que de cet événement à son cercle et à la société de géographie dont il vient d'être nommé secrétaire. Oh, il s'occupe, mon papa. Il s'occupe d'archéologie. Il fait creuser la terre un peu partout pour retrouver les os de nos ancêtres. Il s'amuse, il nous amuse. Il n'a jamais été aussi jeune et aussi gai. Quand vous le connaîtrez mieux, vous l'aimerez beaucoup. En attendant, vous dites qu'il est furieux. Ben, il y a de quoi vraiment. N'ai-je pas l'âge de me marier? 23 ans bientôt. Oui, monsieur. Et voilà quatre jeunes et beaux et riches seigneurs qu'il me présente et que je remercie. Savez-vous comment on m'appelle à Lima? La Vierge du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma bonne tante Agnès et la vieille Irène, qui savent par cœur toutes les légendes de ce pays, vous expliqueront cela mieux que moi. À ce qu'il paraît que c'est quelque chose comme la Vestale antique. Marie-Thérèse, jamais votre noble père, le marquis Cristobal de la Torre, n'acceptera pour gendre Monsieur Raymond Ozou. Ne dites pas de bêtises. Mon père fera ce que je voudrai. Laissez-moi le choix du moment pour l'avertir. C'est tout ce que je vous demande, mon ami. Et ne vous montez pas l'imagination. Il n'y aura pas de roman, et d'ici 3 mois, nous nous marierons très prosaïquement à San Domingo, c'est moi qui vous le dis. Mais je n'ai pas le sou. Mais vous avez une belle santé, nous nous aimons, et je vous donne le Pérou. Il y a de quoi s'occuper ici, vous savez, pour un ingénieur. Vous verrez, je me suis déjà intéressé à vos futurs travaux. Nous irons ensemble à Cusco. Marie-Thérèse, comme je vous aime et comme je suis heureux de vous le dire. Pourquoi ne nous sommes-nous rien dit de tout cela à Paris? Parce que nous ne savions pas. On vit côte à côte, on se voit presque tous les jours, on se croit des amis, de bons camarades, et puis on se sépare. Alors la distance et l'absence vous apprennent que l'on aime. Oh, je le savais avant, Marie-Thérèse. Oui, mais c'est moi qui vous l'ai dit la première. Ils se prirent les mains, restèrent ainsi quelques instants en silence. Soudain, un gros brouhaha se fit entendre venant de la cour, et presque aussitôt la porte s'ouvrit, poussée par un des employés qui paraissait affolé. Cependant, apercevant un étranger, il s'arrêta et ne dit mot. Marie-Thérèse lui ordonna de parler. Raymond comprenait parfaitement et même parlait l'espagnol. Il apprit le malheur qui frappait l'établissement. Des Indiens arrivent des îles. Il y a eu bataille entre les Indiens et les Chinois. Un coolie est tué, trois sont grièvement blessés. Marie-Thérèse ne manifesta aucune émotion. Elle demanda sur un ton sec et dur « Où cela s'est-il passé? Aux îles du Nord? Non, à Chincha. Oscar n'était donc pas avec eux? Oscar y était. Il est revenu avec eux, il est là. Or qu'il entre. » Où l'Indien Oscar entre en scène. Le domestique sortit, fit un signe et un magnifique Indien pénétra dans le bureau. Si calme que voulut paraître Marie-Thérèse, celui-là l'était encore plus qu'elle. La jeune fille s'était assise à son pupitre. L'Indien se dirigea tranquillement vers elle en ôtant d'un geste noble son immense chapeau de paille. C'était un Indien de Trujillo, c'est-à-dire du pays où ils sont les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et où ils sont la prétention de descendre de Manco Capac, lui-même le premier roi des Incas. Ses beaux cheveux noirs tombaient jusque sur ses épaules, encadrant un profil de médaille de cuivre rouge. Son regard, qui fixait Marie-Thérèse, avait une douceur étrange qui déplut tout de suite à Raymond. L'homme était drapé dans une sorte de manteau aux couleurs vives appelé ponche. Il avait un couteau dans sa gaine à sa ceinture. « Raconte-moi comment les choses se sont passées, » fit sévèrement Marie-Thérèse, sans répondre au salut de l'Indien. Celui-ci, malgré son sang-froid, marqua quelque émotion de cet accueil devant un étranger et commença de parler en langage quichua. Mais tout de suite, la jeune fille le pria de s'exprimer en espagnol, lui faisant entendre d'un ton plus en plus sec que dans la bonne société, on ne parlait pas devant un tiers une langue qu'il ne comprit pas. Sous la leçon, l'autre fronça le sourcil et considéra un instant Raymond avec une hauteur méprisante. « J'attends, » reprit Marie-Thérèse. « Tes Indiens vont assassiner un Chinois. » Mais le fils honteux de l'Occident avait ri parce que nos Indiens l'avaient inhumé des poètes en l'honneur du quart de lune. Mais je ne paye pas les Indiens pour qu'ils passent leur temps à faire partie des pétards. C'était la noble fête du quart de lune. Oui, le quart, et la moitié, et la pleine lune, et le soleil, et les étoiles, jointes à toutes les fêtes catholiques. Mais tes Indiens ne cessent pas de faire la fête. Paresseux et ivrognes, je ne les supportais que parce qu'ils étaient tes amis. Ah, mais maintenant qu'ils me tuent mes plus utiles serviteurs, que veux-tu que j'en fasse? Mais les fils honteux de l'Occident ne sont pas tes serviteurs, ils ne t'aiment pas. Ils travaillent. Pour rien. Ils n'ont aucune dignité, ce sont des fils de chiens. Ils me rendent service et je m'occupe les tiens que par pitié. Par pitié. L'Indien répéta le mot comme s'il le crachait. Son poing soulevait le ponche, se dressa au-dessus de sa tête dans un geste de menace et de désespoir, et puis le bras retomba. Il marcha vers la porte, mais avant de l'ouvrir, il se retourna. Et de là, il adressa à Marie-Thérèse quelques phrases rapides en indien quichua. Ce disant, ses yeux semblaient lancer des flammes. Enfin, il rejeta son poncho sur l'épaule et sortit. La jeune fille n'avait cessé de jouer machinalement avec son crayon. « Bon voyage !» dit-elle. « Que vous a-t-il dit ?»« Oh, qu'il s'en allait, que je ne le reverrai plus. »« Oh, il a l'air terrible !»« Aux 2 heures qu'il se donne, il m'agace. »« Très dévoué, il a fait tout ce qu'il a pu, m'a-t-il dit, pour éviter le malheur de tantôt, mais son équipe est impossible. »« Oh, ces Indiens, quelle pluie, un orgueil, et rien à en tirer, je ne peux plus occuper que des Chinois. » C'est vous mettre à l'index, prenez garde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je gardais les Indiens de Huascar, sachant bien que je ne pourrais pas compter sur leur travail, mais ils étaient là comme préservatifs. Et voilà qu'ils me tuent mes coulis maintenant. Oh, qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Et Huascar? Il fera ce qu'il voudra. Il a été élevé dans l'établissement, il adorait ma mère. Ben, ça doit lui faire de la peine de partir. Oui. Et vous ne faites rien pour le retenir? Non. Ah, mais dites donc, nous oublions votre oncle. Elle sonna. L'auto, commanda-t-elle au domestique. Ah, eh bien, et les Indiens? Ils viennent de partir avec Huascar. Tous? Tous? Sans crier, sans murmurer. Oh, sans dire un mot. Ils sont passés à la caisse. Non, non, Huascar le leur avait défendu. Et les coulis des îles? On les a pas vus ici. Mais les blessés, le mort, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais les Chinois les ont déjà transportés dans leur quartier. Oh, c'est admirable, et vive Toto! Elle s'était coiffée d'une toque coquette et hâtivement passait ses gants. Ce fut elle qui s'assit au volant. Ils descendirent à vive allure vers la Moselle d'Arsena. Il admirait l'habileté avec laquelle elle évitait l'obstacle, la sûreté de sa direction, la netteté de ses moindres mouvements dans un quartier plein de surprises. Un boy en livrée et accroupi sur le marchepied ne marquait aucune terreur de raser les murailles. « Vous faites beaucoup d'auto au Pérou ?»« Oh, certes non, nous, les routes nous manquent. L'auto me sert surtout dans mes courses quotidiennes, Callao à Lima, où naturellement je rentre tous les soirs. Puis quelques promenades vers la mer, vers les stations à la mode, à Ancon ou à Corrios. » Oh, une seconde, mon cher Raymond. » Elle avait stoppé doucement et adressait un gracieux salut de la main à une petite tête poupine, toute rose et toute frisée, qui souriait à une fenêtre entre deux pots de fleurs. Elle fit un signe et la tête disparut pour réapparaître sur les épaules d'un galant vieillard, revêtu d'un somptueux uniforme qui sortait d'une porte basse où il resta à demi dissimulé. Marie-Thérèse sauta sur le pavé et confia à la tête frisée un rapide secret, puis elle rejoignit Raymond dans l'auto, fit sonner la trompe et continua sa route vers le port. « Vous avez vu, lui dit-elle, il signor inspector superior, le maître de la police ici. Je lui ai fait part de l'incident. Tout ira bien s'il n'y a pas de plainte des Chinois. Oh, je suis passé par ici parce que j'étais sûr de l'y trouver. » Et où était-il donc? Ben, chez Jenny, l'ouvrière. Nous sommes au pays de l'amour, mon cher Raymond. Ils arrivèrent sur les quais. Ils n'étaient pas en retard. Le remorqueur entrait à peine dans le port, traînant le paquebot de la Steam Pacific Navigation Company, où l'oncle François Gaspard devait être encore en train de prendre des notes. Quand on entre dans le port de Callao, on est frappé, etc., etc. Il devait envoyer des correspondances à un très grand journal de la dernière heure. Il aurait dû entendre Marie-Thérèse parler de son port avec enthousiasme. 60 millions dépensés par une compagnie française. Les marchandises passant directement du pont du navire dans les wagons de chemin de fer. 51 500 mètres. Oui, monsieur, plus de 50 000 mètres carrés de bassin. Ah, cette Moselle d'Arsena, comme elle l'aimait. Pour toute l'activité de son commerce, pour tout le mouvement de ses bateaux, pour la vie de ses quais, où, dans quelques années, après l'achèvement du canal de Panama, on embarquerait tant de richesses, la renaissance du Pérou. Santiago enfoncé, le Chili vaincu, la défaite de 1878 vengée. Et San Francisco, là-haut, n'avait qu'à bien se tenir. Raymond l'écoutait avec stupéfaction, citait des chiffres comme un ingénieur, supputait des bénéfices comme un armateur. Quel brave petit cerveau admirablement organisé pour lui plaire, lui qui détestait l'imagination aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui en avait été fortement dégoûté, et du reste, par la vague littérature de son oncle et les hypothèses chimériques sur lesquelles il continuait d'édifier une histoire universelle à dormir debout. Et tout cela serait très beau, ajouta-t-elle en fronçant les sourcils, si on ne faisait plus de bêtises. Mais voilà que les bêtises recommencent. Lesquelles ? Ben les révolutions. Ils étaient descendus sur le quai et attendaient l'accostage du navire. « Ah oui, chez vous aussi, dit Raymond. Oh, nous en avons trouvé une au Venezuela, une autre à Guayaquil. La ville était en état de siège. Je ne sais plus quel général qui régnait là en maître depuis 48 heures se disposait à marcher sur Quito où se trouvait bloqué le gouvernement légal. Oui, c'est comme une épidémie, continua la jeune fille. Une épidémie qui court les Andes en ce moment. La Bolivie aussi s'inquiète. Et on a de mauvaises nouvelles du lac Titicaca. Eh ben, ça va me gêner pour mon affaire de Cusco, dit Raymond, qui paraît tout de suite s'intéresser vivement à l'événement. Oui, oui, je n'ai pas voulu vous le dire. Je vous réservais ça pour demain. Aujourd'hui, tout devait être la joie, mais les environs de Cusco sont aux mains des partisans de Garcia. Qui Garcia? Oh, un ancien amoureux à moi. Mais tout le monde a donc été amoureux de vous, ma chère Marie-Thérèse. Oh, c'est qu'ils m'ont ennuyé. Ah, quand je suis arrivé de Paris, vous comprenez, de Paris, au premier bal de la présidente où j'ai pu me rendre après le deuil de maman, ils m'ont tous fait des déclarations. Ils sont insupportables, des enfants. Un enfant terrible, ce Garcia, qui vient de soulever les Indiens autour d'Arequipa et de Cusco. Il veut remplacer notre président, mais Ventimiglia ne le saura pas faire. On a envoyé des troupes contre lui? Oui, les deux troupes sont là-bas, mais elles ne se battent pas, naturellement. Mais qu'est-ce qu'elles attendent? Oh, on dit la grande fête de l'Interimi. Quelle fête est-ce là? La fête du soleil chez les Quichuas. Ces Indiens, quel poison! Sachez que les trois quarts des troupes présidentielles et révolutionnaires sont constitués d'éléments indiens, tout simplement. Alors, amis et ennemis attendent le jour de la fête pour s'enivrer ensemble. Oh, il est à prévoir que Garcia passera finalement en Bolivie. Mais en attendant, le cours du guano en aura souffert pendant 3 mois. Et j'aurais été gêné lors des additions. Eh bonjour, monsieur Ouzou. Bonne traversée. Elle s'adressait à François Gaspard, qui, près de la coupée, agitait son carnet de notes à son intention, comme il eût fait d'un mouchoir. Le steamer accosta, on jeta les passerelles, ils montèrent à bord, et Marie-Thérèse embrassa avec joie le bon vieillard qui lui avait servi si paternellement de correspondant pendant le temps de son séjour à Paris. La première chose que l'autre lui demanda fut, comme l'avait fait son neveu, « Ça va, le guano ?» La coquetterie des Liménéennes. Car chez les Ozou, où l'on avait connu si jeune, si gaie, si insouciante, si petite fille, on n'était pas encore revenu de la résolution qu'elle avait prise soudain à la mort de la maman de rentrer en toute hâte au Pérou pour diriger l'une des plus importantes concessions d'un engrais naturel qui tend de plus en plus à disparaître de ces îles précieuses, longtemps productrices du meilleur guano du monde. Mais Marie-Thérèse ne pouvait oublier qu'elle avait là-bas une petite sœur et un petit frère en bas âge, Isabella et Cristobal, et elle connaissait son papa, qui était encore plus enfant que trois, et qui ne savait que dépenser en grand seigneur dans ses voyages à Paris tout l'argent que la maman avait gagné. Celle-ci, fille d'un armateur de Bordeaux, avait épousé le séduisant marquis Cristobal de la Torre, attaché à la légation du Pérou, dans le moment que ce charmant seigneur avait le plus grand besoin de redorer son blason. La connaissance s'était faite pendant la saison des bains de mer à Pontaillac. L'hiver suivant, la marquise s'embarquait pour le Pérou, où elle apportait, en plus de sa dot, un esprit politique, des dons de négoce, une intelligence commerciale peu ordinaire, qui lui firent entreprendre, au grand désespoir de son mari, cette affaire de guano pendant que d'autres se ruinaient à chercher de l'or dans un pays qui en contenait plus que tous les autres, mais qui manquait alors de moyens de communication. Cependant, le marquis, voyant qu'il pouvait puiser à pleine main dans une caisse qui se remplissait sans cesse, pardonna à sa femme de le faire si riche, et à la mort de celle-ci, ne s'étonna point outre mesure de retrouver dans sa fille les utiles vertus de la mère. Il la laissa faire ce qu'elle voulait, et lui eut un gré infini de s'occuper de toutes les affaires sérieuses. « Et où est-il, mon bon Cristobal ?» demanda l'oncle François Gaspard, tout en surveillant le chargement de ses bagages. « Il ne vous attend que demain. Vous allez en avoir une réception solennelle, monsieur Ouzou, qui vous a été préparée à la Société de géographie. » La malle aux documents ayant été soigneusement enregistrée à la gare, François Gaspard consentit à monter dans l'auto qui prit à toute vitesse le chemin de Lima. Marie-Thérèse voulait arriver avant le soir qui tombe si vite dans ces contrées. Après avoir dépassé l'agglomération des maisons en adobe, briques cuites au soleil, et quelques villas confortables, ils longèrent une sorte de marécage couvert d'ajoncs et de roseaux entrecoupés de bosquets, de bananiers et de tamaris au ton rougeâtre, de pépinières d'eucalyptus et de pins arancaria. Le paysage était brûlé par le soleil, par une sécheresse qui ne vient jamais rafraîchir la moindre pluie, ce qui fait que le campo qui environne Lima et le Callao est médiocrement enchanteur. Un peu plus loin, ils aperçurent des cabanes en bambou et en torchis. Cette sécheresse générale dans ce partie du Pérou eût donné à la région un aspect d'incroyable désolation si, de temps en temps, n'était apparu quelque hacienda, ferme entourée d'une oasis verdoyante avec ses plantations de canne à sucre, de maïs et cerisières. Dans les chemins encaissés et argileux qui rejoignent la route, glissaient des convois de bœufs, de charrettes, des troupeaux, que des bergers à cheval ramenaient à la ferme, et cette animation formait un contraste inattendu avec l'aridité environnante. Et l'oncle François Gaspard, malgré les chaos d'une voix mal entretenue, prenait des notes. Et bientôt ils distinguèrent, avec les contreforts de la cordillère, les clochetons et les dômes qui font ressembler Lima à une cité musulmane. Ils y arrivèrent en côtoyant le Rimac, ruisseau sur lequel des nègres pêcheurs d'écrevisses étaient penchés, traînant à leur ceinture un vaste sac qui plongeait dans l'eau, dans le dessein d'y conserver les victimes vivantes. Raymond se réjouit. Il adorait les écrevisses. Comme il confessait sa gourmandise à Marie-Thérèse, il fut frappé de l'air préoccupé de la jeune fille et lui en demanda la raison. « Une chose extraordinaire, dit-elle, on n'aperçoit pas un Indien. » Mais ils arrivaient à Lima, ils touchaient à la fameuse Ciudad de los Reyes, la cité des rois, fondée par le conquistador. Marie-Thérèse, qui aimait Lima dans ce qu'elle avait de plus original, eut la coquetterie de faire à l'auto un détour, quitte à crever ses pneus sur les galets pointus ramassés pour un grand pavage dans le lit du Rimac. Et ils furent tout de suite dans un coin très pittoresque. Les maisons disparaissaient sous les galeries de bois accrochées aux murailles. Ces galeries semblaient de véritables boîtes ouvragées, garnies de grillages et d'arabesques. Elles étaient comme de petites chambres suspendues, offrant un aspect mystérieux et coquet, rappelant les moucharabiés turcs. Seulement là, dans leur pénombre, il n'était point rare d'apercevoir les plus jolis minois du monde, d'adorables visages de femmes qui ne se cachaient nullement. La Niménéenne est renommée pour sa beauté et pour sa coquetterie. Dans ses quartiers, elle sortait enveloppée de la manta, ce grand châle noir qui s'enroule autour de la tête et des épaules, et que nulle autre sud-américaine ne sait draper aussi bien. Semblable au haïk des mauresques, la manta ne laisse s'apercevoir du visage que deux grands yeux noirs, et quand parfois cet abri s'entr'ouvrait, il permettait à Raymond d'admirer au passage des traits harmonieux et un teint mat rendu plus blanc par l'ombre mystérieuse où il se complaisait. Le jeune homme ne cacha pas son enchantement, ce qui lui valut d'être grondé par Marie-Thérèse. « Mais décidément, elles sont trop jolies sous leur mantra, fit-elle. Je vais vous montrer des Européennes. » Et elle donna un demi-tour de volant qui les ramena dans les quartiers neufs, dans les voies larges, dans les promenades d'où l'on découvre le panorama magnifique du campo environnant et des Indes en onde prochaine. Ils traversèrent le Paso a Mancas, du nom de la fleur couleur d'or, et là Marie-Thérèse ne s'arrêta point de répondre au salut. On se trouvait en plein quartier aristocratique. Là, le voile noir de l'Iménéenne était remplacé par les toilettes à l'instar de Paris, car le masque trop discret de la mantra est interdit le soir à toute femme distinguée. C'était l'heure de la promenade du glacier, où l'on s'attarde à prendre des helados en bavardant sur l'amour, les chiffons et la politique. Ils arrivèrent sur la Plaza Mayor quand les premières étoiles se levaient à l'horizon. La foule était très dense et les voitures avançaient lentement. Des femmes, parées comme pour le bal, nu-tête, une fleur dans les cheveux, se faisaient traîner dans des calèches. Des jeunes gens, groupés près d'une fontaine au centre de la place, leur adressaient des sourires, des coups de tête. « C'est extraordinaire, toujours pas un Indien !» murmura Marie-Thérèse. « Ils viennent dans ces quartiers ? Oh, il y en a toujours pour venir voir le défilé de la Plaza Mayor. » Debout devant un café, une petite troupe de métis pérorait. Les noms de Garcia et de Ventimiglia, le président de la République, étaient renvoyés de l'un à l'autre avec des commentaires plus ou moins aimables. Un commerçant gémissait de la crainte qu'il avait que l'ère des pronunciamentos ne fût ouverte. L'auto tourna au coin de la cathédrale et bientôt s'engagea dans une rue assez étroite. Comme Marie-Thérèse voyait le chemin libre, elle força un peu l'allure, mais tout à coup, elle stoppa sans pouvoir éviter de faire une légère embardée. Elle avait failli écraser un homme qui se tenait maintenant au milieu de la calle, immobile, drapé orgueilleusement dans un ponche. Ils avaient reconnu l'Indien. « Oscar !» s'écria-t-elle furieuse. « Oscar vous prie de ne pas passer par ce chemin, signorita. »« Mais le chemin est à tout le monde, Oscar, éloigne-toi. » Oscar n'a plus rien à dire à la signorita. La voiture passera sur Oscar. Raymond voulait intervenir, mais Marie-Thérèse l'arrêta du geste. « Écoute, Oscar, ta conduite est étrange, » fit la jeune fille. « Pourrais-tu me dire pourquoi on ne voit plus un Indien dans la ville ?»« Bon, les frères de Oscar font ce qu'ils veulent, ce sont des hommes libres. » Elle haussa les épaules, sembla réfléchir, puis, cédant à la prière de l'Indien, elle se disposa à prendre un autre chemin. Au moment de partir, elle se retourna et, pensive, dit à l'homme qui n'avait pas bougé, « Tu es toujours mon ami, Oscar. » L'Indien, à ces mots, se découvrit lentement et leva les yeux vers les premières étoiles, comme pour attester le ciel que Marie-Thérèse n'avait pas de plus grand ami sur la terre que Oscar. Ce fut sa seule réponse. La jeune fille lui cria un bref « Adios » et la auto s'éloigna. Elle s'arrêta en face d'un magnifique hôtel dont le concierge se précipita au-devant de Marie-Thérèse. Mais un personnage avait été encore plus rapide que lui. C'était le marquis Cristobal de la Torre dont la calèche venait également d'arriver. Il jeta de véritables cris de joie en apercevant les voyageurs qui n'attendaient que le lendemain. Il salua François Gaspard en termes magnifiques et lui montrant la porte de sa demeure. « Apiese, señor, y descanse, aquí está usted en su casa. Mettez pied à terre, seigneur, et reposez-vous ici, vous êtes dans votre maison. » Le marquis était un petit homme d'une excessive élégance. Il était mis comme un jeune homme et ne perdait pas un pouce de sa taille, sur laquelle il essayait de tromper en chaussant des bottes à haut talon. Il était vif, remuant, scintillant. Quand il se déplaçait, et il était rare qu'il restât en place, tout brillait en lui, sur lui et autour de lui. Son regard, sa cravate éclatante, ses bijoux et les alentours en étaient comme illuminés. Ce remuement singulier n'empêchait point d'avoir les plus beaux airs du monde et même de rester grand seigneur, dans des moments où d'autres, pour y parvenir, eussent dû montrer du calme, du détachement et de la sévérité. Sa plus grande joie, hors de son cercle et de la géographie, était de faire des parties extravagantes avec le petit Cristobal, son fils, âgé de 7 ans. On les eût dit tous deux échappés de l'école, et ils remplissaient la maison de leur culbute, pendant que la petite Isabella, qui entrait dans sa 6e année et qui aimait la cérémonie, les grondait pompeusement avec des manières d'infante. L'hôtel du marquis avait cette particularité d'être mi-moderne, mi-historique. Il présentait des coins de vieilles maisons tout à fait curieuses et inattendues. Cristobal avait fait transporter là d'antiques pans de murailles, de bois, des galeries plusieurs fois centenaires, des bouts d'escaliers vermoulus, des meubles rustiques datant de la conquête, des tapisseries décolorées, enfin tous les débris qu'il avait pieusement ramassés dans les différentes villes du Pérou où avaient vécu ses ancêtres. Et naturellement, à chaque objet se rapportait une anecdote à laquelle le visiteur bénévole n'échappait jamais. C'est dans ce coin historique que l'oncle François Gaspard et son neveu Raymond furent présentés à 2 vieilles dames qui paraissaient tombées d'une toile de Velázquez et avoir la plus grande peine à se relever. La tante Agnès et sa vieille duègne Irène étaient habillées selon les modes disparues et semblaient elles aussi avoir été apportées dans l'hôtel avec toutes les antiquités. Le meilleur de leur temps passaient à se raconter des histoires pour se faire peur. Toutes les légendes du Pérou s'étaient réfugiées dans ce coin où, le soir, après dîner, les 2 Cristobal, père et fils, et la petite infante Isabella, venait les entendre en frissonnant, cependant que Marie-Thérèse, à l'autre bout de la pièce, sous la lampe, mettait à jour sa correspondance avec ses entrepositaires de guano. François Gaspard conçut une joie sans mélange de retrouver vivantes ces vieilles images de la Nouvelle-Espagne dans un cadre où il sentait déjà s'exalter sa dangereuse imagination. Il fut tout de suite l'ami des deux dames, prit à peine le temps de changer de toilette, revint tout de suite les trouver et, à l'heure du dîner, s'installa à table entre elles deux. Elles commençaient déjà leur conte quand Marie-Thérèse crut devoir parler de choses sérieuses et mit son père au courant de l'incident des Indiens et des Chinois. Sitôt qu'elles surent que Marie-Thérèse avait chassé les Indiens, Agnès fit ses réserves et Irène se lamenta. La jeune fille s'était conduite, prétendait-elle, avec beaucoup d'imprudence à la veille des fêtes de l'Internaimi. Le marquis fut de leur avis. Et quand il sut que Huascar lui aussi était parti, il se récria. Huascar avait été toujours fort dévoué à la maison, et que pouvait-il se passer pour qu'il abandonnât celle-ci d'une façon si brusque? Marie-Thérèse expliqua brièvement que, depuis quelque temps, elle n'était pas contente des manières de Huascar et qu'elle le lui avait fait entendre. « Ah, c'est autre chose, dit le marquis. Tout de même, je ne suis pas tranquille. Je ne trouve plus aux Indiens leur indifférence accoutumée. Il y a quelque chose dans l'air, oh, quelque chose autour de nous. » L'autre jour, sur la place à Mayor, j'ai entendu des métis échanger des propos étranges avec certains chefs quichois. L'approche de la fête du soleil. « Comment se fait-il, demanda Raymond, que nous n'ayons plus rencontré d'Indiens depuis Caliao et que je n'en ai pas vu un seul dans la ville ?»« Et toujours pour la même raison, monsieur, fit la vieille Agnès. Parce que nous approchons de la fête. Ils ont des réunions secrètes. Ils disparaissent dans la montagne ou simplement dans des trous connus d'eux seuls, dans de véritables catacombes comme en avaient les premiers chrétiens. Il suffit d'un mot d'ordre venu d'on ne sait quel coin perdu des Andes pour les faire s'effacer comme des ombres, puis réapparaître comme une nuée de sauterelles. Ma sœur exagère, interrompit en souriant le marquis. Et entre nous, oh, ils ne sont pas bien dangereux. Vous êtes tout de même inquiet, Cristobal, vous l'avez dit vous-même. Oh, je les crois très capables de se livrer à quelques manifestations inattendues. Est-ce qu'ils se révoltent quelquefois? Demanda François Gaspard. Je les croyais tellement abrutis. Oh, ils ne sont pas tous. Oui, nous avons eu quelques révoltes, mais ça n'a jamais été bien grave. « Ils sont nombreux ?» interrogea Raymond. « Oh, ils forment les deux tiers de la population, » répondit Marie-Thérèse. « Mais entre nous, ils ne sont pas plus capables de se soulever sérieusement que de travailler. C'est l'aventure de Garcia qui les a remués un peu. Il y a trop longtemps qu'on était tranquille. « Qu'en dit le président ?» demanda la jeune fille à son père. Le président ne s'en inquiète pas outre mesure, il paraît que tous les 10 ans, cette effervescence se renouvelle. Et pourquoi tous les 10 ans? Fit l'oncle Gaspard, qui avait sorti son carnet de notes. Parce que tous les 10 ans, il y a chez les Indiens quichois une plus grande fête du soleil, répliqua en hochant la tête l'antique Irène. Et où se passe-t-elle, cette fête? Interrogea Raymond. « Bon, on ne saurait dire exactement, » expliqua la tante Agnès à mi-voix, comme si elle allait confier à ses auditeurs un grand secret. « À ce qu'il paraît, qu'à cette fête, on accomplit de nombreux sacrifices, et les cendres des victimes sont jetées dans les ruisseaux qui entraînent ainsi dans leur cours tous les péchés de la nation. » « Ah, admirable !» s'écria François Gaspard. « Je voudrais bien assister à cette fête-là. » « Taisez-vous, monsieur, » gémit la tante en baissant la tête dans son assiette. « Il y a cette fête décennale du soleil, des sacrifices humains. »« Des sacrifices humains ? Écoutez-vous ma tante, fit en riant Marie-Thérèse. Mais certes, protesta l'oncle, et pourquoi donc ne la croyons-nous pas? Au fait du soleil, chez les Incas, ces sacrifices étaient coutumiers, et mes notes et documents, les ouvrages de Prescott et tout ce qui a été écrit sur le Pérou nous attestent que les Indiens quichuas, de même qu'ils ont conservé le langage de jadis, en ont encore les mœurs et coutumes d'autrefois. Ah, ils sont devenus catholiques depuis la conquête espagnole, dit Raymond. Bon, ça, j'avoue que ça ne les gêne pas, reprit le marquis. Ça leur fait de religion au lieu d'une, et ils ont mêlé les rites avec une inconscience surprenante. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Revenir au gouvernement des Incas? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Répliqua Marie-Thérèse. Avant la conquête espagnole, sous le gouvernement des Incas, tout le monde, hommes, femmes et enfants, était astreint au travail, suivant les forces et les facultés de chacun. Mais depuis qu'il n'est plus asservi ni maintenu par la discipline de fer des fils du soleil, l'Indien n'a profité de sa liberté que pour se livrer à la paresse la plus insouciante. De là, des misères et une servitude matérielle qui le font se souvenir de la prospérité de jadis, et redemander sournoisement le retour du règne des fils de Manco Capaz. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre aux explications du Huascar. À quoi je lui ai répondu que si ces temps revenaient, ses frères n'en seraient pas plus heureux, attendu qu'ils ont perdu l'habitude du travail. En ce qui me concerne, je suis fort heureuse de m'être débarrassée de la bande du Huascar. Ça m'a coûté un chinois, mais ça n'est pas trop cher. Et c'est vrai qu'il y a encore des sacrifices humains, insista Raymond. Mais non, quelle histoire, dit Marie-Thérèse. La tante Agnès et la vieille Irène entreprirent François Gaspard. Marie-Thérèse ne sait pas. Elle a été élevée à Paris. Elle ne peut pas savoir. Cher monsieur Ozou, écoutez-nous. Il n'y a pas de quoi rire. Elle a tort de rire comme ça. Car nous sommes absolument sûrs, vous entendez, absolument sûrs. Oh, on en a assez de preuves, mon Dieu, que tous les 10 ans, ce qui était la grande mesure de temps chez les Incas, les Indiens quichuas offrent une épouse au soleil. Comment cela, il lui offre une épouse? Demanda l'oncle qui n'en respirait plus. « Mais oui, cher monsieur Ozou, il lui sacrifie une jeune femme en secret dans des temples qui datent de ce temps-là et où l'étranger n'a jamais pénétré. C'est horrible, mais c'est sûr. »« Il sacrifie une jeune femme, il la tue. »« Mais oui, il la tue. Il la tue puisque c'est pour le soleil. »« Mais comment la tue-t-il? Il la brûle ?» Non, non, oh, oh, c'est plus affreux que cela, monsieur Ozou. Oui, plus affreux. Le bûcher, c'était pour des cérémonies beaucoup moins importantes. Mais dans la cérémonie décennale de l'Interaimi, c'est une vierge ennemie, la plus belle qu'ils peuvent trouver, la plus noble de la race ennemie, qu'ils offrent à leur soleil, et ils la murent vivante. Dans le temple de leur soleil. Oui, cher monsieur Ozou, c'est comme on vous le dit. Marie-Thérèse ne se retenait plus de rire devant l'ahurissement de François Gaspard. Celui-ci lui jeta un coup d'œil d'enfant rancuneux, troublé dans son plaisir. Il crut encore devoir prendre la défense des vieilles femmes. Tout ce qu'elle disait, en tout cas, concordait parfaitement avec ce que l'on savait des Vierges du Soleil. Et il trouva la minute propice à l'étalage de son érudition. Les sacrifices humains avaient été toujours en honneur chez les Incas. Tantôt les victimes étaient offertes au dieu du jour, tantôt au roi lui-même, et souvent ces victimes étaient volontaires. C'est ce qui arrivait lors de la cérémonie des funérailles royales, où le sang coulait de toutes parts avec les larmes. Alors, parmi les femmes de l'Inca, c'était à qui s'immolerait. Prescott, qui est avec Wiener, fit l'oncle François Gaspard, celui qui a étudié le plus beau travail sur l'Empire des Incas et sur la conquête du Pérou par les Espagnols. Prescott nous dit, en s'appuyant sur des témoignages les plus dignes de foi, que plus de 1000 serviteurs, époux et servantes, étaient ainsi sacrifiés sur la tombe du monarque. Et c'étaient les épouses légitimes qui donnaient l'exemple en se frappant elles-mêmes. « Oh, les folles ! Oh, les folles !» s'écria la tante Agnès en joignant les mains. La vieille reine se signa et marmotta une prière. Le marquis prit la parole pour féliciter François Gaspard. « Tout cela est exact, mon cher hôte, lui dit-il. Et nos travaux de la Société de géographie et d'archéologie vous trouveront, je le vois, très avertis. Tant mieux, nous ne ferons que du meilleur ouvrage. Si vous voulez, dès demain, après votre réception, je vous conduirai à mes dernières fouilles aux environs d'Ancône, et là, vous pourrez constater que l'Inca était en effet enterré avec ses outils les plus précieux et avec ses femmes qui devaient le suivre dans les demeures enchantées du soleil. Mais qu'est-ce que c'était exactement, demanda Raymond, que la Vierge du Soleil ? Les Vierges du Soleil, reprit avec une joie enfantine François Gaspard, les élus, comme on les appelait, étaient des jeunes filles vouées au service de la divinité, qui étaient retirées de leur famille dans un âge tendre et mises dans des couvents, où elles étaient placées sous la direction de certaines matrones âgées, mamamaconas, vieillies dans les rues de ces monastères, et sous ces guides vénérables, les vierges consacrées étaient instruites de la nature de leurs devoirs religieux. Elles étaient occupées à filer et à broder, et avec la belle laine de la vigogne, elles tissaient les tentures pour les temples et les étoffes pour l'Inca et pour son ameublement. « Oh ! » fit la vieille reine en hochant la tête. « Leur devoir était surtout de veiller à la garde du feu sacré que l'on obtenait à la fête de Raimi. » « Oui, oui, je sais, approuva l'académicien, elles vivaient absolument isolées. Du moment où elles entraient dans l'établissement, elles renonçaient à toute relation avec le monde, même avec leur famille et leurs amis. L'Inca seul et la Koya ou reine pouvaient entrer dans l'enceinte sacrée. On surveillait avec soi leurs mœurs. Et chaque année, des visiteurs étaient envoyés pour inspecter les institutions et faire des rapports sur l'état de leur discipline. « Et malheur à l'infortuné convaincu d'une intrigue !» s'écria la tante Irène. « D'après la loi sévère des Incas, elle devait être enterrée vivante, et la ville ou le village auquel elle appartenait rasée jusqu'au sol et semée de pierres, comme pour effacer jusqu'à la mémoire de son existence. » « Parfaitement, obtempéra François Gaspard. D'où pays ? Fit Raymond. Eh, mon garçon, ceci prouve qu'il était admirablement civilisé, puisque tu y retrouves, jusque dans les cérémonies de ses temples, les coutumes de la Rome antique. Oh, Christophe Colomb, en touchant au rivage où il ne vit que des sauvages enfermés et grossièrement armés, ne se doutait pas que derrière ces tribus primaires, il y avait, sur l'autre versant des mers, tout un monde avec ses mœurs, ses monuments, son histoire, ses lois et ses conquêtes. Deux peuples, celui des Aztèques au Mexique et celui des Incas au Pérou, qui eussent pu rivaliser avec les civilisations méditerranéennes. C'est comme si un prince venu de l'Orient eût découvert le monde ancien en touchant les steppes de la City. Il eût pu revenir dans ses états, croyant qu'il n'avait vu qu'un désert, et il ne se serait pas douté qu'il y avait le monde romain derrière. Bon, tout de même, il eût été un peu bouché, émit timidement Raymond. Un véritable conquérant, avant de voir sa conquête, la devine. Mais ce fut la gloire des Pizarro et des Cortés, s'écria le bouillant marquis. « Oui, ils sont venus tout détruire, » commença l'oncle. Heureusement, Cristobal ne l'entendit pas et il s'arrêta à temps. Sous la table, Marie-Thérèse, qui était en face de lui, lui avait marché sur le pied. Il comprit et se mordit les lèvres. L'un des premiers de la Torre, ancêtre du marquis, avait accompagné Pizarre dans sa destruction. Les deux vieilles femmes, elles, avaient entendu, elles marquaient quelques farements d'un jugement aussi sommaire et aussi peu catholique sur une entreprise qui, à leurs yeux, avait été celle avant tout de la vraie religion contre les infidèles. Mais Marie-Thérèse veillait et elle rejeta tout de suite les deux vieilles péruviennes à leurs histoires de bonnes femmes. « Tout cela est fort beau, dit-elle, mais ne nous prouve nullement que ces sacrifices humains existent encore de nos jours. »« Ma malheureuse enfant, mais il n'y a que vous qui en doutiez !» s'écrièrent-elles ensemble. « Et qui est-ce qui les a vus ?